Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, j'espère que tout se passe bien de votre côté, Marianne Paquette, avec vous pour les 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé sur Canal M, dernière de la saison que je partage avec fébrilité avec vous. Vous, fidèles auditeurs à la maison, n'importe où, derrière votre ordi, la télévision, à qui j'avais envie de faire un cadeau? J'avais envie peut-être premièrement de me faire un cadeau, mais par la suite de vous en faire un à vous, de semer en votre esprit l'idée que tout est possible, que oui, nos peurs, elles sont là, elles sont présentes, mais qu'elles peuvent être un moteur qui est formidable et que nos rêves, même les plus fous, peuvent se réaliser. Et pour ce faire, je me suis dit que ce serait bien de discuter avec quelqu'un qui est arrivé à destination malgré les obstacles. C'est Mylène Paquette qui, le 12 novembre 2013, est devenue la première personne du continent américain à traverser l'Atlantique Nord toute seule, à la rame, 129 jours sur l'eau entre Halifax et la France, ville de l'Orient. On lui parle à l'instant. Mylène Paquette, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, d'être présente avec nous en studio, de nous faire ce cadeau pour cette dernière de cette présence et de parler de votre rêve qui a été semé chez vous été 2005. Quelque chose qui s'est passé sur le voilier de votre sœur. Mais ce rêve-là, au départ, même à vous, il vous faisait peur. Il y avait une espèce de vertige et surtout cette phrase qui disait « Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis un imposteur? Est-ce que ça peut m'appartenir, tout ça? »
Oui, tout à fait. Puis, bien, en fait, je pense qu'à la base, quand j'ai découvert la voile, bon, avec ma grande sœur au lac Champlain, à la base de ça, je travaillais avec les enfants malades à l'hôpital Sainte-Justine comme préposé aux bénéficiaires et je sentais que j'évoluais dans un monde d'absolu. Tu sais, quand on parle de l'hôpital Sainte-Justine, on pense tout de suite aux enfants malades, on pense aux familles qui doivent faire face à ces problématiques-là et aux super infirmières, aux super médecins, aux super thérapeutes qui sont dans l'hôpital. Et moi, en fait, j'évoluais dans ce milieu-là depuis bientôt 6 ans à ce moment-là et je trouvais pas ma place et j'étais peut-être en quête d'absolu moi-même pour vivre quelque chose d'intense, mais pas négatif comme la maladie, comme un problème de santé, et pas non plus quelque chose d'académique comme les médecins, comme mes collègues. Mmh. Mais je sentais que j'évoluais dans un milieu propice à désirer moi-même quelque chose d'absolu, où moi, il faut savoir aussi à la base que j'étais pas très confortable dans ce domaine-là. Donc, alors voilà, c'est juste tout simplement né d'une quête d'absolu, d'un besoin de me réaliser à quelque part, moi, dans la vie. Et quand j'ai découvert la voile, la navigation, j'ai su que c'était vers ça que je voulais aller, mais loin de moi l'idée de traverser à la rame à ce moment-là. Oui. J'ai juste découvert la voile, la passion de la navigation.
Oui, parce qu'à la base, il faut vous rappeler, se le rappeler, il y avait une certaine crainte de l'eau, pas nécessairement d'être sur l'eau, mais de mettre l'orteil dans l'eau. Là, on était un petit peu moins confortable.
Oui, c'est ça. Puis j'ai jamais aimé me baigner toute seule, même dans une piscine hors terre. J'ai horreur d'être plus loin que le genou. Moi, c'est le règlement de la rotule. Même dans un gros bain, je ne suis pas encore confortable. Donc, quand moi, j'ai découvert la voile, bien, j'avais toujours fait des sports nautiques. Donc, j'étais toujours à l'aise sur l'eau. Alors, la voile, ça m'attirait beaucoup. Mais de savoir que quand j'ai découvert la rame océanique, que c'était un sport en plein essor partout dans le monde et que c'était possible de traverser un océan à la rame, j'ai tout de suite voulu désirer faire ça pour être en connexion avec la nature, pour vivre cette aventure-là. Et c'est une aventure de longue haleine. Donc, tout me... En fait, tout me permettait de croire que c'était fait pour moi jusqu'à ce que je découvre que ben il fallait descendre dans l'eau à quelque part dans la traversée pour nettoyer, caréner le bateau, en fait. Nettoyer le bateau des anatifs ou des espèces envahissantes qui ralentissent la glisse du bateau. Donc, au moment où j'ai découvert ça, j'ai dit, ben, c'est pas grave, là, de toute façon, c'était la voile que je voulais faire. Alors, toutes les raisons étaient bonnes pour tourner le dos à ce rêve-là.
Oui. Et à un moment donné, il y a cette rencontre, ce contact avec une jeune fille à qui, d'ailleurs, vous dédiez votre livre.
Oui.
Cynthia, qui est aux soins intensifs, atteinte de leucémie. et avec qui vous discutez et qui vous remet un petit peu à votre place.
Oui, c'est ça. Donc, Cynthia, je la connaissais depuis 2 ans ou presque, et je la côtoyais sur différentes unités de soins, puis je l'appréciais beaucoup, cette patiente-là. Alors, j'essayais vraiment d'y remonter le moral, tu sais, lui dire que c'était possible quand même, puis qu'il fallait prendre les défis à bras-le-corps, puis, tu sais, choisir d'être positif, puis choisir d'être courageux. Et... J'avais été maladroite avec elle, donc elle m'avait dit vraiment dans ses mots à elle de me la fermer puis de sortir de sa chambre parce que de toute façon, des adultes comme moi, il y en avait plein dans l'hôpital, des gens qui ne comprenaient pas vraiment ce qui vivaient les patients. Et elle m'avait dit aussi que je ne savais pas c'était quoi que de confronter mes peurs, tu sais, que de faire face à mes démons moi-même. Puis ça, ça m'avait vraiment interpellée. Donc juste d'écouter cette patiente-là puis de réfléchir suite à ça, bien, ça m'avait vraiment rappelé à quel point je n'étais pas capable de me réaliser à cause que je détournais... Je faisais toujours le tour de mes problèmes depuis très longtemps, oui, au lieu de les affronter moi-même.
Mais c'était aussi un moment où, je pense, et vous en parlez dans « Dépasser l'horizon », c'est votre bouquet, Mylène Paquette, il y a des peurs qu'on peut choisir de surmonter, mais il y a des peurs, comme celle de la mort et de la maladie, qui nous tombent dessus et on ne peut rien faire. Vous avez choisi cette peur-là et de, oui, la surmonter.
Oui, tout à fait. Puis aussi... Ce que j'avais réalisé suite à cette rencontre-là avec Cynthia, c'est que si on n'affronte pas les peurs qui parsèment notre route toute notre vie, ben comment on peut être prêt à mourir, à rencontrer des difficultés, si on fait juste contourner les problèmes? Puis moi, j'avais rien accompli dans ma vie, même académiquement, j'avais rien accompli. Je ne m'étais pas réalisée dans aucune sphère de ma vie parce que c'était difficile. Donc, comment faire face après à la musique puis au grand drame de la vie qu'on va tous connaître un jour, perdre un être cher, faire des choses difficiles? Comment se préparer à ça si on contourne toujours les problèmes?
Oui.
Donc, ça m'avait donné cette rencontre-là avec Cynthia comme un peu, je pense, la foi que mon projet ne servirait pas qu'à moi. Ça m'avait fait croire que je pourrais inspirer des patientes comme Cynthia ou comme des enfants avant qu'ils tombent malades, t'sais, avant, oui, qu'ils rencontrent des difficultés.
Oui. Des obstacles, vous avez continué à en avoir avant cette longue traversée, des contraintes financières majeures, jusqu'à peut-être penser d'aller demander de l'aide sociale. Il y a eu des blessures également, de graves blessures au bras gauche. On fait comment, si près du but, quand il arrive ces obstacles, ces entraves-là, de se dire « OK, je continue, je m'accroche ».
Bien, il faut dire que dans la trajectoire, dans mon cheminement vers la journée où je suis partie sur l'océan, il y avait vraiment des problématiques qui étaient faciles à identifier. Donc, par exemple, trouver le financement, trouver le budget. Alors, quand je m'exposais, je parlais de mon projet, je me promenais avec mon bateau dans des congrès, des salons d'exposition. Je rencontrais des individus, des gens qui étaient prêts à m'aider, qui trouvaient que j'avais vraiment là un beau projet. Donc, je me sentais moins seule dans l'organisation de ça parce que j'ai fait des rencontres de gens vraiment qui ont changé le développement de ce projet-là. Donc, je pense aux gens les plus importants. Il y a un de mes amis qui est devenu très important encore aujourd'hui pour moi, Benoît. Il y a Hermelle Lavoie. Donc, ces gens-là m'aidaient à développer ce projet-là. Alors, quand je rencontrais des difficultés, je leur en parlais. Je sentais déjà que j'avais une équipe autour de moi. Et quand venait le temps de me poser la question, est-ce que j'abandonne? Est-ce que je vais plus loin? Mais je me disais, il faut que j'honore tous les efforts que ces gens-là ont fait pour moi.
Mm-hmm.
Tu sais, si Hermel, maintenant, malheureusement, il est décédé, il nous a quittés, mais il était à sa retraite, il se levait le matin, il m'appelait, il me disait, t'es rendu où là? C'était comme un peu un mentor pour, oui, moi. Puis il me demandait, il me talonnait, il voulait que j'avance dans ce projet-là. Donc, si je me disais, lui, il se lève le matin puis il travaille pour moi bénévolement, bien, j'ai pas le droit d'abandonner. Il faut que j'honore toutes ces heures-là que mes amis, que mes collègues, que mes camarades font pour moi. Mm. Donc, c'est à cause d'eux que je continuais. Puis aussi, Cynthia était décédée à ce moment-là. Donc, Cynthia n'a jamais su qu'est-ce qu'elle m'avait inspiré, mais, wow, je me disais, il faudrait qu'elle soit fière de moi quelque part. T'sais.
Mais ses parents sont toujours là pour,
oui,
vous suivre,
oui,
toutefois,
oui.
Mylène Paquette. J'ai envie d'en parler un tout petit peu, Hermelle Lavoie. Je sais que c'est encore très sensible pour,
oui,
vous. Il est parti au mois de mars dernier. Et je pense que ça l'est pour n'importe qui a côtoyé, qui vous a suivi, qui a lu votre livre, parce que cet homme que vous décrivez comme l'homme aux yeux pleins d'étoiles a été extrêmement marquant dans votre parcours. Vous dites même, il a changé ma vie. Il reste quoi de cet homme-là chez vous, en vous maintenant?
Ben, il me reste toute sa famille parce qu'on m'a comme adopté un peu les Lavoie à Rimouski. Puis, c'est sûr qu'il y a un gros manque parce que c'est vraiment la personne avec qui j'aimais mieux être sur la planète. T'sais. J'aimais vraiment partager du temps avec lui. Puis
partager aussi... partager notre vision de la vie, tu sais, m'aidait beaucoup, beaucoup à cheminer. Donc, je pense qu'il est encore présent quelque part parce que m'arrive plein de belles choses encore aujourd'hui. Et, tu sais, si on croit aux âmes sœurs, ça aura été mon âme sœur, ce monsieur-là. Et j'ai comme l'impression aussi que c'est la première personne qui a cru en moi. Et il y en a plein d'autres aussi. qui ont cru en moi, mais on vient de me porter des mouchoirs.
Oui, Jean-Sébastien qui amène cet homme galant de tous les moments.
Alors, tu sais, j'aime croire que ben il y a eu aussi, lui, beaucoup de leadership dans mon projet, puis de dire à sa communauté, puis de dire, tu sais, c'est quand même un Rimouskois dans la... 74 ans, je l'ai rencontré, 73 ans, tout jeune à l'époque. Alors, tu sais, qui a convaincu plein de gens dans la région d'embarquer dans mon projet.
Et puis... sa famille, hein, son fils qui est devenu un grand ami aussi.
Oui, Jean-Pierre, qui est très présent encore dans ma vie, puis sa femme, sa belle-sœur, ses sœurs à lui aussi. Donc, c'est tous des gens qui sont encore très importants pour moi. Puis, je pense à son neveu aussi, Christian. J'ai vraiment comme une famille adoptive maintenant à Rimouski. Mais Hermel, il m'a présenté à sa famille, puis il m'a toujours, tu sais, il a porté le flambeau pour moi très longtemps. Alors, tu sais, il a cru en moi. Ça a été une des premières personnes qui mettait sa main au feu pour moi, que j'allais réussir tout ça. Donc, il s'en trouve plein, hein, d'autres personnes comme ça qui croient en nous. Il faut juste savoir les écouter puis les découvrir autour de nous. Mmh. Alors, tu sais, je me souviens encore de notre première rencontre quand il est venu me voir sur le fleuve avec son Zodiac puis qu'il me disait, ben les journées d'après, tu dois avoir quelque chose que je peux faire pour toi là, dans ton bateau. Si j'avais été fermée, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut, le monsieur aux cheveux blancs? Tu sais, si j'avais pas su... observer dans son regard vraiment l'intensité puis la passion qu'il avait, ben j'aurais pas pu connaître tout ce qui m'a fait comprendre dans la vie là, jusqu'aujourd'hui.
Et il y a des gens qui, au départ, sans nécessairement ne pas y croire, avaient de grandes craintes pour vous, dont votre père. Et il y a des passages tellement touchants dans votre livre. Ce papa tellement inquiet de voir sa fille avoir un si grand rêve. Comment on gère le regard ou la pression des gens qui nous aiment le plus?
Mais tu sais, à commencer par ma sœur qui, elle, m'a présenté la voile, qui m'a fait découvrir ça, puis après, qui me voit me développer dans ce domaine-là, puis qui pourrait peut-être, tu sais, un domaine courir à ma perte, là, tu sais, il peut arriver n'importe quoi, là, sur l'océan pendant que je suis seule. Donc, elle qui a été très bonne de tenir le fort de la famille pendant que j'étais partie, et... qui s'est sûrement sentie un petit peu partagée entre encourager sa petite sœur et la freiner pour pas justement qu'il arrive à une catastrophe. Puis mon père, ma mère, qui ont été très présents, tu sais, mon père l'a pris très, très mal au début quand je lui ai présenté le projet parce que je l'ai mis un peu devant le fait accompli. Tu sais, je voulais leur présenter ça comme une belle chose dans ma vie.
Il y avait
une
fermeture même,
oui.
Là.
Oui. Non, vraiment, vraiment. En fait, moi, je dis qu'il a boudé, il dit qu'il a pas boudé, il m'a juste pas parlé. Mais on a arrêté de se parler pendant plusieurs mois parce que lui, ben à la base, il parle pas beaucoup de toute façon, mais j'allais chez mes parents puis il me parlait pas, il m'adressait pas la parole, il me boudait vraiment parce que lui, c'était sa façon... de pas adhérer à ce que moi, je rêvais de faire. T'sais, il pensait vraiment que ça allait être comme un suicide, là, ce projet-là. Donc, tu sais, c'est en communiquant ensemble qu'on a réussi à se retrouver puis à comprendre qu'est-ce qui me drivait là, dans un projet comme ça.
Ouais. Je veux revenir à cette crainte de l'eau, d'être dans l'eau. Lors de la traversée, vous aviez, comme vous le disiez tout à l'heure, Mylène, à plonger à un moment donné parce que Hermel était ralenti par ces petits coquillages qui étaient collés sur la coque. Vous deviez aller les nettoyer. Vous aviez cette... Je pense que ça vous a pris du temps là, avant de plonger. Finalement, vous avez eu l'aide d'une psychologue. Avec qui vous étiez en contact, qu'est-ce qu'elle vous disait et comment elle est parvenue à vous faire plonger définitivement?
En fait, la psychologue me disait, par exemple, quand j'essayais de plonger, bon, là, j'appelais l'équipe au sol, puis il y a même les journalistes qui me disaient « Quand est-ce que tu plonges? » Et là, qui revenaient avec des demandes d'entrevue après pour dire « Est-ce qu'elle a plongé? » Donc, j'avais vraiment, là, tu sais, on attendait qu'il se passe quelque chose. Tu sais, souvent, c'était, en tout cas, on voulait que je réussisse cette activité, si je peux le dire comme ça.
Bien, il faut le dire, c'est que tout le monde vous suivait de près, ici, en France, et même un peu partout dans le monde, via les médias sociaux, les médias aussi plus traditionnels vous suivaient, vous donniez des entrevues. Donc, tout le monde retenait un peu leur souffle lorsqu'il y avait une action de Mylène sur l'eau.
Oui, c'est ça. Puis je pense que j'ai réussi à plonger après le passage du Queen Mary. Donc, j'avais encore plus de visibilité ou en tout cas, je créais encore plus d'attente avec cette descente dans l'eau-là. Et puis, avant de plonger, bien, il fallait que je parle à mon équipe, à Michel, mon routeur, et à Hermel pour leur dire « OK, tout est prêt. Là, je vais descendre à bâbord. j'ai tassé les rames. Je suis là. OK, je descends. » Mais j'ai fait l'exercice de me préparer plusieurs fois pour...
tenter de descendre. Puis ma tentative de descendre, ça se résumait en un échec à chaque fois parce que je pleurais trop, parce que j'étais...
terrorisée.
Oui, puis j'avais pas la bonne attitude. Moi, je regardais dans l'eau en me disant, mon Dieu, j'ai tellement eu une belle vie. Donc, c'était peut-être pas la bonne façon d'entrevoir la chose. Et la psychologue me disait, t'as le droit de pas réussir, t'as le droit de connaître l'échec, mais à chaque fois que tu te rends à un nouvel échec, parce que tu plonges pas dans l'eau finalement, mais tu renforces ton sentiment d'échec. Donc, ça va être encore plus difficile par la suite de réussir ça. Donc, juste de me donner le droit de rencontrer l'échec, c'était déjà m'enlever de la pression. Puis, la psychologue m'a demandé de faire de la visualisation, mais pas seulement de visualiser comment ça allait se passer dans l'eau, mais visualiser la préparation. Qu'est-ce qui se passe les heures avant de descendre dans l'eau et jusqu'à la couleur de la corde avec laquelle je m'attache, jusqu'à la température que je dois ressentir en me changeant sur le pont, en mettant mon habit de plongée. Donc, je visualisais vraiment tout ça pendant vraiment de nombreuses minutes. Puis ensuite, en deuxième étape, elle me disait, essaie d'imaginer qu'est-ce que ça va être quand tu vas plonger. Et qu'est-ce que tu vois dans l'eau? Y a-tu des poissons? Y a-tu un gros requin? Qu'est-ce qui se passe dans l'eau? Et ensuite, comment je vais me sentir quand je vais sortir de l'eau? Donc, quel sentiment va m'habiter après avoir réalisé mon objectif puis après avoir réussi à confronter ma peur? Mais à chaque fois que je le faisais, je réussissais jamais à me rendre à la troisième étape parce que ça finissait toujours en catastrophe. Il y avait un requin qui me mangeait un pied ou quelque chose. C'était dans ma visualisation, j'arrivais jamais à trouver, à être à l'aise dans l'eau. Alors, la psychologue m'a vraiment laissé aller là-dessus puis elle m'a dit « trouve une solution ». Ton cerveau ne fait pas la différence entre un événement réel, donc un stress réel, puis un stress imaginaire. Donc, quand tu imagines que le requin arrive puis qu'il t'attaque, c'est comme renforcer aussi le stress, tu sais, donner la raison au stress d'être présent quand tu vas plonger. Donc, j'ai imaginé toutes sortes de solutions, comme celle de plonger avec une balle.
Ah,
donc,
oui?
Quand le requin arrivait, j'imaginais lui lancer la balle et
pour
là, il allait la chercher.
Ah, OK, comme le chien.
Oui, comme
le
chien.
Faire.
Donc, je disais, allez, va chercher, va chercher. Donc, j'imaginais vraiment cette situation-là qui est complètement rocambolesque. Puis, ça m'a vraiment aidé à apaiser le stress. Mais j'imaginais plein d'autres choses aussi qui pouvaient me faire rire, me faire sentir bien.
Mais l'humour, Mylène, vous a sauvé. Qu'est-ce que vous disiez le matin en sortant « Welcome world »?
Hello world.
Hello world, c'est ça. Donc, oui. L'humour qui vous a sauvé. Et ce que vous aviez dit aussi, c'est que cette traversée de l'Atlantique Nord, toute seule, à la rame, était davantage un exploit d'ordre mental que, oui, que physique. Et rapidement, avant la pause, je veux qu'on en parle de la santé, santé mentale, santé physique, comment on arrive à sortir à travers ça et à en prendre soin pendant la traversée.
Mais en fait, j'avais retenu le conseil d'un aventurier que je connais qui me disait « t'as le droit d'être découragé, mais tu peux pas te permettre de prendre des décisions puis d'être découragé et de passer à l'action si t'as pas respecté tes besoins primaires. » Donc, si t'as pas dormi, t'as pas mangé, tu t'es pas réchauffé, si t'as pas... tu te sens pas en sécurité, tu peux pas prendre de décision. Donc, ça m'était resté en tête, puis les fois où est-ce que j'étais vraiment, je broyais du noir puis je pensais que c'était la fin du monde, j'avais ruiné ma vie avec ce projet-là, mais je me disais, tu sais, souviens-toi de ce que mon ami Fred Dion, qui a fait l'Antarctique,
oui.
Donc il me disait, tu sais, tu peux pas te permettre ça, ton projet est trop important. Alors, pour avoir une bonne santé mentale, il fallait d'abord que je pense à mes besoins physiques.
Oui. Ouais. Là-dessus, nous, on va prendre une petite pause. Pas qu'on en a de besoin, parce qu'on en prendra encore du Mylène Paquette, mais quand même, petite pause et on vous revient. Restez pas loin, dans un instant.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux. Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse. Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
De retour avec Mylène Paquette, je vous le rappelle, cette navigatrice, première personne du continent américain à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame en solitaire, est là pour nous parler de ce rêve, peut-être un peu fou, ce rêve qu'elle a eu à l'été 2005 et qui s'est concrétisé en 2013, et peut-être aussi pour nous semer un petit peu cette graine de dire que pour nous aussi, tout est possible. Tout à l'heure, Mylène, vous disiez quelque chose d'extrêmement important, je pense, et qui module en ce moment votre parcours suite au retour de 2013. C'est cet exploit-là, cette expérience-là ne me servirait pas qu'à moi, mais allait pouvoir avoir un écho chez d'autres personnes. Bon, il y a d'abord votre implication auprès de différentes organisations environnementales parce que ça vous a touché, ça, lors de vos différentes traversées, l'état de la mer, de l'océan.
Oui, vraiment, l'état de l'océan. Puis la première traversée que j'avais faite en 2010, j'étais avec cinq compagnons, cinq hommes de Grande-Bretagne. Et c'est drôle parce que on regardait dans l'eau, souvent on voyait des déchets flotter. Puis c'était pas tellement la quantité de déchets que je voyais, mais la réaction que les garçons avaient choisi d'adopter face à ça. Eux autres disaient « Ah non, arrête de parler de ça, les déchets, c'est pas grave, c'est pas un vrai problème. » Parce que c'est dur à assumer comme humain quand on rencontre autant de mammifères marins puis autant de nature sauvage. Alors, je m'étais dit « C'est pas vrai que j'ai le courage de venir ici. J'ai aussi la responsabilité de parler d'océan puis de parler de ses beautés et aussi des problématiques qui s'imposent, les pressions que l'océan subit. » Alors, je me suis associée à la Fondation David Suzuki. Ensuite, maintenant, je suis sur le conseil d'administration du Centre québécois du droit à l'environnement parce que je pense qu'avec le droit, on peut faire changer les choses aussi. Oui. Et je suis impliquée aussi avec le GREM, le groupe de recherche d'études des mammifères marins qui est situé à Tadoussac. Donc, plein de petites tentacules, en fait, pour pouvoir faire la différence au niveau de l'environnement. Et il y a un projet qui me tient à cœur, là, c'est celui du GREM, de l'adoption collective de Beluga. Moi, j'ai reçu un prix du Musée canadien de la nature et je l'ai offert au GREM pour pouvoir avoir mon petit Beluga à moi. Alors, donc j'ai un petit
Maman
Beluga.
Maman de Beluga.
Oui, et là, pour le moment, il s'appelle DL1935, mais il va changer de nom très bientôt. Pardon. Alors, voilà, donc c'est vraiment pour pouvoir s'approprier le fleuve, tu sais. On parle du fleuve, de l'océan, mais il y en a des mammifères marins tout près de chez nous aussi, puis il faut les protéger.
Et je tiens à dire aux gens qui nous écoutent que vous êtes quelqu'un d'assez conséquent parce que tout à l'heure, vous m'avez demandé de l'eau et vous avez spécifié que vous ne vouliez pas que ça soit une bouteille de plastique.
Oui.
Donc, quand même, la parole va avec l'action chez vous, Mylène Paquette. Il y a aussi, et ça, je veux vraiment qu'on se garde le temps d'en parler, vous avez un projet en ce moment, projet immobilier pour aider des personnes en situation de handicap.
Oui, tout à fait. Puis ça me faisait vraiment plaisir d'en parler parce que je pense que la première fois que j'en parle publiquement, j'ai moi et mon associé, en fait, mon amie Brigitte, on a pensé acheter un terrain, faire construire un duplex. Puis là, bien, on pense à nos parents qui vieillissent et mon père qui souffre de Parkinson. Puis on se dit, moi, j'habite loin de mes parents. Bon, c'est pas tellement loin, La Salle, Montréal-Nord, mais tu sais, j'aimerais ça, moi, que mes parents, un jour, ils ne soient pas obligés d'aller dans un centre de soins longue durée parce que leur santé diminue. Donc, on a pensé à ces gens-là et on s'est dit, pourquoi pas construire des duplex, donc quatre logements qui seraient vraiment faits spécifiquement pour les gens à mobilité réduite, pour, par exemple, des gens vieillissants, des gens qui ont besoin d'être en chaise roulante, n'importe quel type de problématique. Mais ces duplex-là vont être situés à Saint-Colomban, puis ils vont être tout près de chez mon associé, Brigitte, qui va pouvoir aussi s'occuper d'eux, puis être disponible pour que ces gens-là aient quelqu'un de près. Tu sais, on pense souvent qu'aujourd'hui, tout le monde est chez eux, en cabané, dans leurs petites affaires, puis on pense pas aux gens qui sont peut-être handicapés, et qui ont besoin d'aide. Et puis ces gens-là sont des beaux individus puis des gens qui peuvent beaucoup apporter à la société. Donc, leur faciliter la tâche, je pense que ça me coûte rien de plus de construire pour ces gens-là que de construire pour quelqu'un bipède qui va très bien et qui est en santé. Donc, il faut penser à ces gens-là puis redonner à la communauté de cette façon-là.
Oui. Vous avez eu envie aussi de redonner à la communauté en vous impliquant auprès de Circuit Bleu, le Circuit Bleu Charles Bruneau en tant que porte-parole. C'est la troisième édition et ça a quelque chose. C'est un défi qui est quand même assez particulier, qui a deux volets. Donc, oui, un défi à nature humaine en premier lieu, mais par la suite pour aller chercher des fonds pour la recherche sur le cancer pédiatrique. En quoi ça consiste, ce beau circuit bleu Charles Bruneau?
En fait, c'est un tour de l'île de Montréal en kayak. Donc, c'est sur 4 jours. Alors, même les gens qui n'ont jamais fait de kayak peuvent participer. On peut y aller en double ou prendre une place sur un kayak double, c'est-à-dire, ou encore seul, et ils ont de l'équipement à nous prêter. Tout ça, l'organisation est très, 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 très bien rodée après 3 ans. Et on peut faire seulement une journée ou 2 jours, 4 jours même. Et c'est le fun parce qu'il se crée tellement une belle énergie autour des kayakistes, autour des guides qui sont là avec nous. Et c'est un beau défi. Et tout ça, bien, c'est pour ramasser des fonds pour les centres de cancérologie Charles Bruneau, parce qu'on sait qu'il y en a un à Sainte-Justine où je travaillais. Et là, on veut en développer un à Québec et à Sherbrooke pour permettre aux familles d'être soignées dans leur région surtout. Ouais. Et puis pour aider la recherche en cancérologie chez l'enfant. Et puis c'est ça aussi, moi, c'est là qu'une enfant m'a sorti de ma... m'a brassé un peu pour réaliser mon projet. Donc, c'était une belle façon pour moi de remettre...
Ça fait une boucle, là,
oui,
quelque part.
Tout à fait, oui.
12 juin, donc, il y aura cette conférence de presse. Est-ce que les gens peuvent s'inscrire? Est-ce qu'il y a encore de la place?
Oui, je crois qu'on est encore en période d'inscription. Et il y avait justement un concours récemment, Ramer avec moi. Mais vous pouvez encore venir ramer avec moi dans un autre kayak à côté de moi. Et c'est ça. Donc, vous pouvez aller voir sur le circuit bleu Charles Bruno, sur le site web.
En même temps, vous demeurez très occupée encore. Il y a des projets sur la table. Projet de voilier, Mylène?
Oui, bien, il y a la Grande Traversée avec... je suis co-animatrice avec Francis Reddy à Radio-Canada, une émission qui va avoir lieu l'an prochain. Mais moi, je ne suis pas sur le voilier, mais ça met peut-être la table sur d'autres projets que moi, je ferai peut-être à la voile dans les années futures. Mais pour l'instant, je fais juste naviguer sur un petit voilier tout récemment que j'ai acquis l'été dernier. Mais d'autres projets dans l'avenir, il va en avoir. Oui.
En terminant, il nous reste 2 minutes et demie ensemble, Mylène Paquet. Lors du retour, il y a eu soudainement une espèce peut-être de prise de conscience de dire « Oh, j'étais quelqu'un d'ordinaire avant, maintenant je suis devenue quelqu'un d'extraordinaire » en ce sens où tout le monde voulait vous parler, les journalistes, le grand public, les gens vous reconnaissaient dans la rue. Est-ce que ça amène une espèce de responsabilité qui est lourde? Comment vous faites avec ce nouveau rôle presque d'icône?
Je pense qu'on peut pas... tu sais, les gens se font une représentation de qui je suis, puis mon Dieu, la fille qui a traversé l'Atlantique à la rame, mais je peux pas être tout ce que les gens s'imaginent non plus. Donc, je pense que c'est d'être le plus humaine, authentique, puis disponible possible. Puis ce que j'ai trouvé difficile, c'est de ne pas être capable d'être assez disponible pour tout le monde aussi. Alors là, je vis avec ça. La difficulté de ne pas pouvoir aller dire oui à tout ce qu'on m'offre aussi. Mais je pense que c'est important de continuer de vivre de mes passions. Puis c'est comme ça que je vais pouvoir donner l'exemple un peu, si je veux.
Lorsque l'on réalise un si grand rêve, celui de traverser l'Atlantique Nord toute seule, après, lorsqu'on revient... Qu'est-ce qui nous reste encore l'envie de réaliser d'autres rêves, d'autres choses?
C'est sûr que mes implications, c'est ce qui me propulse vers l'avant. Plein de nouvelles choses aussi en communication. Mais il y a d'autres rêves, c'est sûr, qui vont venir. Mais tu sais, des fois, j'ai le goût aussi d'avoir une famille, puis tu sais, de me caser un peu. Mais c'est ça, je pense que c'est un peu comme une vie d'artiste maintenant que j'ai plus que ce que j'avais avant.
Oui, mais vous continuez à le faire d'une façon très généreuse. Vous êtes quelqu'un de particulièrement accessible et de chaleureux. Et ça a été vraiment un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et d'apprendre à vous connaître davantage.
Merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi.
Merci, Mylène. Eh bien, Jean-Sébastien Laliberté, fidèle coéquipier, merci beaucoup, mon cher. Je remercie aussi toute l'équipe derrière C'est bon pour la santé, Christiane Campagnan aux médias sociaux, Louise Vien, directrice de radio, Jean-Richard Lefebvre. Je vous salue, vous tous, et vous, à la maison, je vous embrasse. C'est la dernière, mais on ne se dit pas adieu. Ce n'est qu'un au revoir. Merci beaucoup. Passez un très bel été. Portez-vous bien. Bye-bye.